Le journal, Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le scandale de l'amiante, les victimes de l'Andeva s'inquiètent d'un possible non-lieu. Ils protestent contre la façon dont les juges d'instruction travaillaient sur leur dossier. Précision d'Antoine Maret dans un instant. La rentrée scolaire et la résistance des chefs d'établissement qui tenaient leur conférence de presse ce matin. Le SNPDEN estime que les annonces répétées du nouveau ministre Jean-Michel Blanquer ne sont pas suivies d'effet dans les établissements. Dossier suivi par Hakim Kasmi. Dans cette édition, nous prendrons des nouvelles des salariés de Nokia, inquiets de presque 600 suppressions de postes. Annoncé. Nous verrons que les ONG protestent contre l'entrée en vigueur dès jeudi prochain du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Et puis nous serons à Strasbourg, où le Parlement menace de retirer à Aung San Suu Kyi son prix Sakharov. L'exposition à cette fibre cancérigène serait responsable de 3000 décès chaque année. C'est du moins ce qu'affirme l'Andeva, l'Association nationale des victimes de l'amiante. Le scandale sanitaire a pris un tour pénal depuis une vingtaine d'années avec la plainte pour homicide et blessures involontaires déposée à l'époque par les salariés du groupe Eternit, qui fut l'un des pionniers de l'amiante ciment. Depuis 1996, donc, les malades tentent de se faire entendre devant la justice pénale. Au civil, les dossiers d'indemnisation ont avancé de façon plus rapide. L'inquiétude est grande, justement qu'au pénal, de nombreuses poursuites s'achèvent sur des non-lieux. Demain, notamment, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris va prononcer une décision importante qui concerne deux scandales, celui de l'amiante à Jussieu et celui des chantiers navals de la Normed. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Tara.
Les associations de victimes ne se sont pas arrêtées ce matin sur ces deux dossiers qui seront donc tranchés demain par la Cour d'appel de Paris. Elles ont surtout voulu dire que, d'après elles, les juges d'instruction, dans ces enquêtes sur l'amiante, se sont lourdement fourvoyés.
Effectivement, dans la décision qui doit être rendue demain, le parquet de Paris a suivi les arguments de trois juges chargés d'une information judiciaire dans d'autres dossiers amiantes. Ces magistrats s'étaient dit dans l'impossibilité de dater le moment où l'exposition à l'amiante avait déclenché la pathologie et donc dans l'impossibilité d'en imputer à quiconque, de manière certaine, la responsabilité. Pour François Derriot, vice-président de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, il s'agit de décisions politiques.
On a toujours été confronté effectivement à un manque de volonté de la part de la justice pour instruire cette affaire sur le plan pénal. Combien de fois dans des cabinets ministériels on s'est vu rétorquer cette phrase, y compris au moins par un directeur de cabinet, je l'ai encore dans l'oreille, mais maintenant que vous êtes indemnisé, maintenant qu'il existe un fonds d'indemnisation, qu'est-ce que vous voulez de plus, qu'est-ce que vous venez faire au pénal ? Comme si l'amiante était une catastrophe naturelle et qu'il n'y avait aucun responsable. Alors que dans ce qu'on en connaît, quand on regarde le dossier, les nombreuses pièces, bien sûr qu'il y a des gens responsables. Ce n'était pas une catastrophe naturelle, c'était une catastrophe prévisible. On savait qu'il y aurait des morts.
Et la crainte de l'Andeva ne se limite pas à l'amiante, car les décisions des juges pourraient bien faire jurisprudence dans d'autres domaines. Michel Ledoux est l'avocat de l'association.
Le raisonnement des magistrats qui nous disent « vous ne pouvez pas démonter une date de contamination alors qu'on parle de période d'exposition » est un raisonnement qui est faux, juridiquement et scientifiquement, mais surtout qui est extrêmement dangereux. Et les conséquences iront bien au-delà de l'amiante, hein, une fois de plus. C'est pour ça que c'est grave, hein, c'est l'affaire de l'amiante est une affaire très importante. Hein, mais derrière tout ça, on voit bien que, et là il n'y a pas besoin d'extrapoler beaucoup, que ça empêchera dans l'avenir, si on suivait le raisonnement des magistrats, toute recherche de responsabilité lorsque des produits cancérigènes seront projetés dans l'atmosphère, lorsque des gens sont exposés. C'est gravissime, c'est gravissime.
À défaut de convaincre les juges pour le moment, l'Andeva cherche donc à sensibiliser l'opinion publique. Elle organisera le 13 octobre prochain une manifestation pour demander un procès pénal de l'amiante.
Merci beaucoup Antoine Maret. Dans l'affaire du Lévothyrox, ce traitement contre l'hyperthyroïdie dont la formule a changé, provoquant chez certains patients des effets secondaires compliqués, 50 nouvelles plaintes sont déposées ce jeudi et à l'Assemblée nationale, l'élu Julien Dive demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Ce député de l'Aisne critique l'inaction du gouvernement. Comment juger 20 ans après le scandale de l'amiante ? Qui sont les responsables ? Y aura-t-il un procès ? On vient de s'interroger là-dessus avec Antoine Maret. Dans un tout autre contexte historique, il ne faudrait pas faire de véritables parallèles. Comment juger les bourreaux nazis près d'un demi-siècle après leur crime, ce fut l'une des grandes questions du procès Barbie, Klaus Barbie, qui en 1987 dut répondre de ses crimes contre l'humanité. Le procès du boucher de Lyon a été filmé à l'époque. À son issue, Barbie sera condamné à la perpétuité, notamment pour la déportation de 40 44 enfants juifs de la maison d'Izieux. Le 3 juillet dernier, date anniversaire du verdict, les ministères de la Justice et de la Culture ont annoncé l'ouverture des archives judiciaires du procès Barbie. Ce sont donc les 3 années de préparation de ce procès qui sont aujourd'hui accessibles à tous. Les archives départementales du Rhône ont tiré de ce fonds quelques extraits pour organiser 2 expositions qui s'ouvrent en ce moment à Lyon. Mais qu'y a-t-il encore à découvrir sur le procès Barbie? La réponse de Bruno Galland, le directeur des archives départementales du Rhône. Il répond à Florence Sturm.
Ces archives, elles montrent le sérieux et la rigueur avec laquelle l'instruction a été conduite et avec laquelle le procès lui-même a été mené. On pourrait penser qu'après tout, l'histoire était bien connue, la culpabilité de Barbie était installée dans beaucoup d'esprits, tout ça était déjà un petit peu décidé d'avance. Eh bien, pas du tout. Le travail qui a été fait comme pour n'importe quel autre procès, à part que c'était un procès d'une ampleur beaucoup plus importante. La même attention à dresser les listes des parties civiles, à dresser la liste des témoins qu'il fallait entendre, à organiser les premières confrontations, à prendre en note, à interroger. Tout cela, on le voit dans les archives du procès. Et puis, dans les dossiers sur l'organisation matérielle, on voit également le souci des magistrats à faire en sorte que ce procès soit un procès à la fois exemplaire et ordinaire. On ne va pas prendre des mesures d'exception parce que c'est Klaus Barbie. Il va être jugé dans l'enceinte du palais de justice. Il va avoir les mêmes droits que n'importe quel accusé. Il aura notamment le droit de ne pas assister aux audiences, sauf lorsque le président du tribunal considère que pour telle audience, sa présence est requise. Et ça a beaucoup choqué. Et on a des lettres dans les dossiers. On a des lettres de gens indignés. Vous avez laissé Barbie ne pas assister aux audiences. Ce n'est pas possible. Nous, les victimes, nous demandons qu'il soit là. Et justement, c'est le droit normal de la défense. Et quelque part, ces lettres d'indignation et de protestation, elles nous montrent tout l'écho qu'avait le procès Barbie et la sérénité avec laquelle les magistrats ont traité ces demandes pour que Barbie puisse être vraiment jugé comme n'importe quel autre accusé.
Voilà, des propos recueillis par Florence Sturm, et je vous renvoie sur le dossier très complet réalisé sur le web, entretien, décryptage, vidéo, dossier donc co-réalisé par Camille Renard et Florence Sturm. Les chefs d'établissement scolaire font de la résistance, en tout cas leur syndicat, le SNPDEN. C'était sa conférence de presse de rentrée ce matin, avec un constat. Les fortes ambitions réformatrices de leur ministre, Jean-Michel Blanquer, trouvent jusqu'ici peu d'écho sur le terrain, Hakim Kasmi.
Si le ministre de l'Éducation se veut volontaire, en multipliant les annonces depuis la fin de l'été, les chefs d'établissement n'entendent pas être de simples exécutants. Une fronde qui s'est caractérisée dans un premier temps par le dispositif « une rentrée en musique ». Seulement 1 collège sur 4 et même 1 lycée sur 10 l'ont vraiment appliqué. Quant à la réforme du collège, qui doit être assouplie avec le retour des classes bilangues et du latin, 75% des établissements ne l'ont toujours pas appliqué. Philippe Tournier, le secrétaire général du SNPDEN.
Je pense qu'on devrait enfin passer dans une culture, dans ce ministère, où on respecte les professionnels. Ce sont les enseignants de français qui ont les élèves devant eux. Il faut respecter leur professionnalisme. Ce propos, d'ailleurs, ne concerne pas que le ministre de l'Éducation nationale. Il concerne aussi, par exemple, ceux qui produisent certains programmes et qui n'ont pas vu d'élèves depuis longtemps et qui mettent souvent les professeurs en difficulté dans leur classe par les injonctions contradictoires qu'on leur donne. Et cessons de faire du prêcha sur des enseignants comme s'ils étaient des exécutants alors que ce sont quand même des cadres recrutés aujourd'hui au niveau Bac+5.
Autre inquiétude chez les chefs d'établissement, le dispositif devoir fait qui doit entrer en vigueur dans les collèges après les vacances de la Toussaint. Là aussi, Philippe Tournier dénonce le manque de moyens. Jeunes en service civique, enseignants volontaires, là aussi, rien n'est vraiment clair.
Pour s'en occuper, il faut quand même du monde. Et que si c'est du monde, il faut le payer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour l'instant, l'argent n'est pas là. Et que donc, il faut régler ce problème des ressources, effectivement, des collèges pour pouvoir encadrer devoir fait.
Enfin, sur la question de l'interdiction des téléphones portables au collège, finalement, le ministre a tranché, cette mesure ne sera appliquée qu'à la rentrée 2018.
Merci beaucoup, Hakim Kasmi. Les syndicats sont décidés à taper du poing sur la table et le gouvernement semble, pour l'instant, leur prêter une oreille favorable. Loin de la pénible réforme du Code du travail, il s'agit du dossier Nokia France, dont les salariés sont particulièrement inquiets. Les représentants du personnel étaient reçus aujourd'hui au ministère de l'Économie, venus dire leur exaspération au secrétaire d'État à l'économie, Benjamin Griveaux. Bonsoir, Lucas Valdener.
Bonsoir.
C'était une réunion importante. Le groupe finlandais qui fabrique des téléphones portables essentiellement veut supprimer près de 597 emplois en France d'ici 2 ans, en plus des 400 déjà détruits sur les 2 dernières années. Lucas, la firme n'a pas, selon les syndicats au moins, tenu sa parole.
Et d'ailleurs, ils sont venus pour ça, rappeler au gouvernement les promesses non tenues par leur direction. Des promesses faites il y a 2 ans, c'était en septembre 2015. Le ministre de l'économie de l'époque s'appelle Emmanuel Macron. Il donne son accord pour le rachat d'Alcatel-Lucent et en échange, le PDG de Nokia s'engage à maintenir l'emploi. Il annonce même le recrutement de 500 chercheurs sur le territoire français. Mais voilà, selon la CFDT, on est loin du compte. Les effectifs n'ont pas été maintenus et les embauches prennent du retard. À peine 130 recrutements à ce jour. Et pire, la direction envisagerait désormais la destruction de près de 600 emplois. Non pas dans la recherche et le développement, mais dans les fonctions support, comme la formation, la vente ou encore la gestion de commandes. Les sites de Nozay dans l'Essonne et de Lannion dans les Côtes d'Armor seraient les plus touchés. D'ailleurs, les élus locaux concernés étaient à Bercy eux aussi ce midi. Alors pour l'instant, les syndicats ne réclament aucune sanction, mais un peu de temps pour s'assurer que la direction tienne ses engagements pour de bon. Du temps aussi pour discuter sur l'avenir des salariés menacés. Bref, du temps pour réactiver le dialogue social.
En direction de Nokia France, qui sera reçue donc elle aussi la semaine prochaine, et elle va devoir se justifier.
Oui, parce que du côté de Bercy, on s'impatiente sérieusement. Pour le secrétaire d'État Benjamin Griveaux, la multinationale n'a effectivement pas tenu parole et elle doit maintenant s'expliquer au plus vite. La direction en aura donc l'occasion la semaine prochaine, directement à Bercy. Pour le moment, Nokia France ne donne aucun détail sur ces suppressions de postes et préfère évoquer un projet d'évolution. Un plan qui consiste à dégager 1,2 milliard d'euros d'économies dans le monde avant la fin d'année prochaine. Mais le groupe confirme, il s'efforcera de limiter autant que possible le nombre de départs contraints. Et selon une porte-parole de la direction, des mesures d'accompagnement seront proposées. Les consultations avec les salariés commenceront officiellement lundi prochain.
Merci beaucoup Lucas Valdener. Réunion tripartite, syndicat, direction, gouvernement annoncée avant la fin du mois. Bercy proposera des pistes aux salariés. Toujours au chapitre économique, mondialisation, échanges commerciaux, revenons sur un engagement de campagne du candidat Macron. Le futur président s'était engagé au printemps dernier à réunir un comité d'experts neutres sur le CETA, le fameux traité de libre-échange négocié entre l'Union européenne et le Canada. Emmanuel Macron s'engageait à tirer les conclusions du rapport de ses experts avant d'engager la France dans ce traité. Rapport qui a bien été remis il y a quelques jours. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Tara.
Rapport plutôt critique, on va en parler. On apprend aujourd'hui, ce sont les secrétaires d'État aux affaires étrangères et à la transition écologique qui l'ont indiqué. On apprend Anne-Laure que le CETA entrera bien en vigueur à partir de jeudi prochain, le 21 septembre. Malaise, du moins chez les opposants à ce traité. Et pour cause, Anne-Laure, les experts mandatés par le président Macron ont souligné dans leur conclusion que l'accord aurait un impact défavorable sur le climat et poserait des problèmes dans les domaines comme la santé ou l'environnement.
Oui, c'est peut-être la raison pour laquelle le gouvernement a attendu la toute dernière minute après 20h hier soir pour annoncer que ce CETA tant décrié entrerait bien en vigueur en France. De façon provisoire, certes, puisqu'il faut attendre que les 28 parlements nationaux de l'Union le ratifient, mais en attendant, 95% de ces dispositions seront appliquées. Les experts mandatés ont pourtant abondé, quoique de façon moins virulente, mais abondé tout de même dans le sens des opposants au CETA. Côté climat, d'abord, il est le grand absent de ce traité, note le rapport qui pointe l'absence de tout engagement contraignant à diminuer, par exemple, les subventions dommageables à l'environnement, notamment aux énergies fossiles ou à la pêche. Côté transport, pas d'ambition suffisante non plus sur le transport maritime, note le rapport. Autre sujet sensible qui avait fortement mobilisé côté français, l'agriculture. Comme le craignaient les syndicats agricoles, les experts pointent les exigences moindres du Canada en matière de pesticides, OGM, hormones et antibiotiques. À titre d'exemple, 46 pesticides interdits en Europe sont utilisés au Canada. Un moins-disant sanitaire qui pourrait affaiblir l'agriculture européenne, notamment en matière d'élevage. Enfin, les décriés tribunaux d'arbitrage font effectivement peser une incertitude sur la capacité des États européens à réglementer en matière environnementale et sanitaire, puisque des entreprises pourront engager des poursuites si elles estiment que les normes d'un État sont discriminantes à son égard. Les experts proposaient notamment l'idée d'un veto climatique opposable dans ce genre de litige, pas retenu par le gouvernement français, qui jure qu'il continue à réfléchir sur une éventuelle renégociation du traité, mais qui ne gèle ni ne retarde son entrée en vigueur, jeudi prochain donc. Ajoutons tout de même que si l'un des parlements national ou régional des 28 ne ratifie pas, le CETA peut ne pas être appliqué.
Merci beaucoup Anne-Laure Choin. À l'étranger, en Irak, cette attaque, la plus sanglante depuis que l'armée a repris Mossoul aux djihadistes de Daesh, le bilan encore provisoire fait état de 52 morts. Il s'agit d'un double assaut près de la ville de Nasiriyah, à 300 km au sud de Bagdad. Un restaurant a été attaqué à l'arme automatique, puis à la voiture piégée, ainsi qu'un poste de contrôle des forces de sécurité. Les terroristes de l'État islamique ont frappé une route empruntée par beaucoup d'Iraniens qui viennent en voisins visiter les villes saintes chiites de Najaf et de Karbala. En Irak, toujours, cette décision du pouvoir central qui fait pression sur les Kurdes irakiens et plus précisément sur ceux qui ont défendu la ville de Kirkuk contre les djihadistes de l'État islamique et qui s'y sont installés depuis. À Bagdad, donc, le Parlement irakien a décidé de destituer le gouverneur kurde de la province de Kirkuk, région si sensible pour son pétrole florissant. L'homme est limogé car il s'était prononcé pour l'organisation d'un référendum dans 10 jours sur l'indépendance de son territoire. Les précisions à Beyrouth d'Omar Waman.
En limogeant Najim Edim Karim, le gouverneur de la province de Kirkuk est l'un des plus farouches partisans de l'indépendance du Kurdistan irakien. Le pouvoir central de Bagdad veut ainsi démontrer qu'il ne cédera pas face aux velléités sécessionnistes de cette région qui recèle pas moins de 40% des réserves de pétrole brut du pays. Officiellement, Kirkuk relève de l'autorité du pouvoir central. Officiellement seulement, car dans les faits, Bagdad en a perdu le contrôle. Lors de l'offensive éclair des djihadistes en juin 2014, l'armée irakienne en déroute avait fui devant la menace djihadiste et sans l'intervention des factions kurdes, Kirkuk aurait basculé dans le giron du groupe État islamique comme Mossoul. Mais si Kirkuk est majoritairement kurde, d'importantes minorités arabes et turkmènes s'opposent à l'organisation du référendum dans cette province qu'ils ne souhaitent pas voir rattachée au Kurdistan. Or, le conseil provincial de Kirkuk a voté le mois dernier pour participer à ce scrutin, ce qui depuis provoque de fortes tensions parmi les habitants. Des tensions qui pourraient dégénérer en conflit ouvert, d'autant que l'armée irakienne s'est déployée en masse aux frontières de ce Kurdistan où elle mène des opérations militaires contre les dernières poches de Daesh. Mais les autorités kurdes se veulent rassurantes et déclarent que si le référendum est un droit naturel, une victoire du oui n'entraînerait pas aussitôt l'annonce de l'indépendance, mais un meilleur rapport de force en leur faveur dans l'optique de nouvelles négociations face au pouvoir central de Bagdad.
Omar Waman. Jean-Yves Le Drian est en Turquie. A priori, le déplacement du ministre des Affaires étrangères était prévu pour signer avec Ankara quelques accords commerciaux. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Tara.
On dit a priori car au Quai d'Orsay, on ne se cache pas que la libération du journaliste Lou Bureau sera au centre des échanges.
Oui, et si le chef de la diplomatie française doit rencontrer tant son homologue que le Premier ministre et même le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, c'est bien parce que c'est d'eux que dépendra l'élargissement du journaliste français, emprisonné à Chirnak sur la frontière turco-irakienne depuis près de 2 mois. En effet, un décret-loi passé fin août donne dorénavant au ministre des Affaires étrangères et au président turc la possibilité d'extrader ou d'échanger avec d'autres pays tout étranger détenu en Turquie, en faisant fi de l'éventuelle procédure judiciaire initiée à leur encontre. Lou Bureau est accusé de collusion avec une entreprise terroriste apparemment sur la base d'images de Kurdes syriens trouvées sur son ordinateur. Concrètement, le nouveau décret permet au régime turc d'utiliser tout étranger détenu dans ses prisons comme monnaie d'échange dans une négociation diplomatique. Outre Lou Bureau, au moins 2 Américains et 10 Allemands se trouvent actuellement derrière les barreaux en Turquie. Un prêtre, quelques journalistes, des militants d'ONG de défense des droits de l'homme ou même de simples touristes arrêtés ces derniers mois. La semaine dernière, le ministère allemand des Affaires étrangères prévenait d'ailleurs les citoyens allemands désireux de se rendre en Turquie qu'ils y risquaient d'être arrêtés inopinément, y compris dans les zones touristiques. Début août, le président Erdogan avait publiquement demandé que les Américains extradent quelques citoyens turcs présents aux États-Unis et accusés par Ankara d'avoir participé au coup d'état manqué de l'an passé, en échange de quoi les Américains détenus en Turquie pourraient être libérés. Un pareil échange a semble-t-il été proposé à l'Allemagne, qu'elle extrade la douzaine de militaires turcs y ayant demandé l'asile politique, en échange de l'élargissement des citoyens allemands incarcérés en Turquie. Quant à Lou Bureau, s'il est bien devenu une telle monnaie d'échange, reste à savoir ce que la Turquie exigera de la France pour le libérer.
Merci beaucoup Eric. La situation des Rohingyas ne cesse de se dégrader en Birmanie. 400 000 d'entre eux ont fui vers le Bangladesh voisin. L'ONU affirme craindre le pire et au Parlement européen, on brandit à présent une menace contre la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi et son silence. Anya Vogel.
Aung San Suu Kyi était un modèle, une source d'inspiration pour le monde démocratique, une héroïne qui se dressait contre la répression militaire. C'est pour cela que nous lui avons décerné notre prix Sakharov en 1990, ont rappelé les eurodéputés, et qu'elle est devenue lauréate du prix Nobel de la paix. À ce titre, elle a une responsabilité particulière, elle doit se positionner clairement contre les massacres. Sa passivité coupable la rend aujourd'hui indigne de notre prix. Le Parlement européen souhaite examiner s'il peut être révoqué en cas de violation des critères ayant conduit à son attribution. Plusieurs députés y ont appelé dans l'hémicycle. Mais l'urgence est désormais de faire cesser les violences. Le Parlement européen demande aux forces militaires et aux forces de sécurité de cesser immédiatement les meurtres, le harcèlement et les viols de Rohingyas, ainsi que l'incendie de leur maison, et de faire parvenir l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin, d'aider à l'accueil des réfugiés et à l'établissement d'une paix durable. C'est dans ce domaine que l'Union européenne a un rôle primordial à jouer, a rappelé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Adoptons des sanctions économiques, suspendons les négociations commerciales, ont insisté à leur tour les eurodéputés, sinon il n'y aura plus de Rohingyas.
Anya Vogel à Strasbourg. Un tout petit mot du temps qui sera encore très frais demain avec du soleil, surtout sur l'est de la France.